Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Selon une étude publiée sur le site Clue, spécialisé en sexualité, près de 90% des femmes considèrent la gentillesse comme le trait de caractère le plus important chez leur futur amoureux. En demandant à 64 000 femmes de 180 pays ce que rechercher le plus chez un partenaire, un futur partenaire, les chercheurs de l'université de Göttingen, en Allemagne, ont remarqué que la gentillesse arrivait loin en tête devant le soutien, l'intelligence, l'éducation et la confiance en soi. Et en provenance du monde médical, nous avons aussi la citation suivante. La gentillesse est une vertu qui transcende les frontières culturelles et linguistiques et son importance va bien au-delà des simples normes sociales. Au-delà de ses implications morales, la gentillesse a un impact significatif sur notre bien-être physique et mental. Et il pose la question, quels sont les avantages de la gentillesse? Il y a plusieurs avantages. Il parle des réductions du stress et promotion de la santé mentale. Je continue à lire. La gentillesse agit comme un antidote naturel au stress. Des études ont montré que les actes de gentillesse libèrent des hormones telles que l'oxytocine, également connu sous le nom d'hormone du canard, qui réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cette réduction du stress peut conduire à une meilleure santé mentale en réduisant les risques de dépression et d'anxiété, tout en favorisant un sentiment de bien-être général. Les avantages de la gentillesse ne se limitent pas à la santé mentale. Il touche, et là, c'est là que je veux en venir, il touche également à notre capacité à créer un environnement positif et bienveillant autour de nous. Galates chapitre 5 et le verset 22. Galates chapitre 5 et le verset 22 que nous connaissons bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et je voulais vous lire aussi ce même verset dans la version Darby. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté. Et dans le synodal, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est la bénignité ou la bienveillance. C'est le même mot. Et bien entendu, ces fruits de l'esprit se complètent. Ils font appel à d'autres fruits de l'esprit. Comment être bienveillant? Si nous ne sommes pas patients, si nous n'exerçons pas la patience, comment être bienveillant si nous n'avons pas de douceur? Et comment être bienveillant si nous ne vivons pas en paix? La bienveillance, c'est un état d'esprit. C'est une attitude. William Barclay, dans sa série d'études bibliques quotidiennes sur Galates chapitre 5 et le verset 22 ajoute que la version de Reims traduit Christotès en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 6, nous reviendrons sur ce mot plus tard, par douceur. Que le Christ décrit son jour en Matthieu chapitre 11 verset 30 comme Christos. C'est un lien avec le mot que nous venons de voir. signifiant qu'il ne frotte pas, c'est-à-dire qu'il ne s'irrite pas, et que les Grecs qualifiaient le vin de Christos, c'est-à-dire moelleux. Ces exemples, c'est là où j'ai voulu en venir, ces exemples montrent clairement que ce mot met l'accent sur l'esprit dans lequel un acte est accompli. C'est le commencement. Avant l'acte, c'est dans l'esprit, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. L'ouvrage biblique parle de bonté morale, intégrité, et Loua parle de qualité morale, intégrité. C'est donc le fond, c'est quelque chose qui est dans le cœur, si quelqu'un est bienveillant. Parce que quand nous ne sommes pas bienveillants, nous pouvons faire des actes de bonté, enfin apparemment des actes de bonté, avec une autre attitude, avec une attitude qui n'est pas bienveillante. Et évidemment, ce n'est pas bon, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans Psaume 106, verset 4, Psaume 106, verset 4, je ne m'y rapporte pas, nous voyons la nature même de Dieu. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu est bienveillant. C'est sa nature même. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Et donc, Dieu montre sa bienveillance par des actes concrets, des actes de bonté. Et donc, aujourd'hui, j'ai voulu effectivement parler sur la bienveillance que nous venons de voir dans Galates chapitre 5. Alors, c'est quoi exactement la bienveillance? Dans la Bible, la bénignité et la bienveillance désignent une disposition intérieure qui est bonne, qui est douce et qui est généreuse et, comme nous venons de voir tout à l'heure, qui se traduit par des actes concrets de bonté envers les autres. Ce n'est pas uniquement un sentiment, mais c'est une attitude qui est présente, qui est stable et qui influence la manière d'une personne, d'un individu, de juger, de parler et d'agir à l'égard des autres. Et elle reflète, comme nous venons de voir, un parti, un aspect du caractère de Dieu lui-même. Regardons de plus près la bienveillance de Dieu. Ce que la Bible dit, nous connaissons bien le passage dans 1 Roi chapitre 3, quand l'Éternel est apparu en songe à Salomon pendant la nuit, donc tout au bout de son règne, 1 Roi chapitre 3 et le verset 4. 1 Roi chapitre 3 et le verset 4. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrait 1000 holocaustes sur l'autel. C'était quelque chose qui était spectaculaire, vraiment grandiose. À Gabaon, verset 5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Et la réponse de Salomon est intéressante parce que il parle de cette nature de Dieu, de cet aspect de caractère de Dieu. Verset 6. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance. » Pas uniquement bienveillance, mais une grande bienveillance. Dieu voulut du bien à David. Dieu avait une disposition favorable à son égard. Et Dieu l'a beaucoup béni. Le mot en hébreu, ici utilisé, traduit en français par bienveillance, c'est le mot chesed. Dans Lévi, on a beaucoup parlé, c'est un mot très riche, qu'on ne peut pas traduire par un seul mot en français. On voit donc la profondeur du mot. C'est traduit différemment dans l'Ancien Testament. Dans Exode, on parle de riche en bonté. Nous connaissons aussi le psaume 136, où le refrain vient dans chaque verset, car sa miséricorde, Chesed, car sa miséricorde dure à toujours. Nous trouvons ce mot 247 fois dans l'Ancien Testament. 247 fois. Et pour revenir à la fin du verset 6, toujours en Rois chapitre 3, tu l'as traité avec une grande bienveillance, ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance. Salomon répète, souligne la bienveillance, la grande bienveillance de Dieu. Et Dieu était bienveillant, vraiment bienveillant à l'égard de David, comme nous venons de lire, parce qu'il était fidèle, qu'il était juste et qu'il marchait dans la droiture de cœur à l'égard de son Dieu. Malgré les péchés que David a commis, David s'est repenti. Et Dieu était extrêmement bienveillant à son égard. Nous voyons aussi la même chose dans Esdras chapitre 3. Esdras chapitre 3, le contexte ici est intéressant parce que il y avait des Juifs qui sont revenus de la captivité. Ce que nous constatons dans Esdras chapitre 3 et le verset 8, je le lis. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs, les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les lévites de 20 ans et au-dessous de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Verset 10. Un événement phare, un événement très important. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. C'était un événement qu'il fallait marquer et les gens, les Juifs, étaient très conscients de la portée de l'événement. Verset 11. Je vais lire le verset 11 dans la version Rabbina. Ils entonnèrent des hymnes et des actions de grâce en l'honneur de l'Éternel, chantant, car il est bon, car sa bienveillance s'étend éternellement sur Israël. Et tout le peuple poussait de grandes acclamations au moment où l'on rendait gloire à l'Éternel pour la fondation de son temple. Ils étaient conscients. Le peuple était conscient que Dieu était bienveillant à leur égard et que sa bienveillance s'étendait éternellement sur Israël. Dieu était bienveillant à ce point-là. Bienveillant dans la durée. Et il est toujours bienveillant avec nous si nous aussi nous suivons les voies de Dieu. Nous trouvons aussi la bienveillance de Dieu mentionnée, élaborée, même dans le Nouveau Testament. Nous le trouvons à plusieurs reprises dans l'épître d'Éphésiens. Par exemple, Éphésiens chapitre 4 et le verset 32. Je lis à partir du verset 31, Éphésiens 4, verset 31. Je vais vous lire ce verset dans la Nouvelle Bible Second. La Nouvelle Bible Second. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Et puis la Bible précise ce qu'il faut faire à la place de cette méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Pas uniquement la bienveillance, mais une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Chapitre toujours Éphésiens, chapitre 1, et le verset 5. Je lis ceci, cette fois-ci dans le second 21. Éphésiens chapitre 1 et le verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Et nous pouvons réfléchir à tout ce que cela implique. De la part de Dieu le Père qui a donné son Fils unique pour nous, et de la part de Christ lui-même qui a terriblement souffert avec un mort atroce pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. De Christ qui a payé l'amende de nos péchés. Du reste, ce mot traduit ici par bienveillance est traduit ailleurs dans le Nouveau Testament par bienveillant dessein et disposition bienveillante. Dieu a des dispositions bienveillantes à notre égard. Du reste, nous voyons l'expression bienveillant dessein dans Éphésiens, chapitre quelques versets plus loin, dans Éphésiens, chapitre 1 et le verset 9. Éphésiens, chapitre 1, verset 9, mais je vais commencer à lire à partir du verset 7 pour situer le contexte. Nous voyons aussi la richesse de l'amour de Dieu, de la bienveillance de Dieu à notre égard. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le Christ, la remission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous voyons l'immense bienveillance de Dieu à notre égard. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Quelques versets plus loin, Éphésiens chapitre 2 et le verset 4, nous voyons toujours cette richesse de la bonté de Dieu, de sa bienveillance, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Verset 7, je vais lire dans la version Chouraki. Verset 7, « Afin de montrer dans les airs qui viennent, l'excellente richesse de son chérissement par sa bienveillance, la disposition de Dieu à notre égard, la disposition bienveillante, par sa bienveillance envers nous dans le Messie Yeshua, la disposition d'esprit de Dieu, de notre Dieu. Nous voyons aussi dans Romains chapitre 11, nous voyons aussi la bienveillance de Dieu. Romains chapitre 11 et le verset 1. Romains chapitre 11 et le verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Non, parce que Dieu a une disposition remplie de bienveillance à l'égard de son peuple. Et à l'égard du monde entier, à chaque être humain, à l'égard de chaque être humain. Nous voyons donc la disposition de Dieu, parce que Dieu a un plan. Il y a un avenir pour Israël et il y a un avenir pour l'humanité. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là, car moi aussi, c'est Paul qui parle, je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Dans les versets 5 et 6, il parle de la grâce, et nous comprenons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, comme la Bible dit, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Comme c'est précisé dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 8. Je reviens à Romains, Romains chapitre 11 et le verset 11. Je dis donc, Romains 11, verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, mais par leur chute, il parle donc d'Israël, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Israël n'a pas perdu sa chance de salut. Toujours Romains chapitre 11 et le verset 15. Verset 15, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Nous voyons ici la profondeur du plan de Dieu. Du reste, dans Romains chapitre 9, 10 et 11, nous voyons la profondeur du plan de Dieu. Paul précise qu'Israël va être restauré et qu'Israël aura une relation avec Dieu dans une alliance, une nouvelle alliance et une meilleure alliance. Verset 22. Verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Dans ce verset, nous retrouvons trois fois le mot bonté. Et c'est ce mot qui a été traduit par bienveillance dans Éphésiens, dans la version Shoraki, dans Éphésiens chapitre 2, verset 7. Bienveillance. La grande, l'immense bienveillance de Dieu. Israël n'est pas sans espoir. Verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, mais c'est temporaire, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Mais il y a un avenir, il y a un futur, verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé. Cela qu'il a écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Israël a un espoir, Israël a un avenir. Le salut le sera offert à une époque future. La bienveillance a à voir aussi avec le fait de donner. Avec le fait de donner. Souvent, quand nous donnons, nous espérons recevoir, on s'attend même à recevoir en retour. Luc, chapitre 6, et le verset 31. Luc, chapitre 6, et le verset 31. Nous lisons ceci. Ce que vous voulez, c'est le Christ qui parle, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il faut avoir les yeux sur les autres, pas sur soi. Verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? C'est humain, c'est normal pour l'être humain. Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Même les pécheurs agissent de cette façon. Donc, si on se comporte de cette façon, on n'a pas de mérite. Verset 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareil. C'est leur disposition d'esprit ils espèrent recevoir en retour. Ensuite, le verset 35, qui commence avec le mot « mais ». Mais qui signale une autre façon de faire, une autre approche, une autre façon d'agir. Verset 35. Mais aimez vos ennemis, qui sont faits, les ennemis sont aussi faits à l'image de Dieu. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. C'est le fait de donner sans attendre quelque chose en retour. Sans attendre quelque chose en retour. Donner pour donner. Donner sans arrière-pensée. Et je continue le verset. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car, en décrivant donc le Très-Haut, en décrivant le caractère de Dieu, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Pour tout le monde. Pour les bons, bien sûr, mais aussi pour les ingrats et pour les méchants. Et le mot traduit ici en français par bon, c'est la racine du même mot que nous avons vu tout à l'heure, Ephésiens chapitre 2, verset 7, est traduit par bienveillance dans la version Chouraki. La disposition, nous voyons ici donc la disposition de Dieu à l'égard de sa création, même si sa création est ingrat et méchant, parce que c'est la disposition même de Dieu, un Dieu d'amour qui veut le bien pour l'humanité, qui veut le bien pour sa création. Verset 36. Soyez donc, la conclusion, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Dieu est parfait. Il est miséricordieux et il est bienveillant. Parce que Dieu a cette disposition, parce que Dieu est bienveillant à l'égard de sa création, et Dieu nous encourage d'agir de la même façon, de la même manière, la façon d'agir de Dieu. La bienveillance, c'est le caractère même de Dieu, et Dieu veut que nous puissions imiter sa bienveillance, et surtout la pratiquer, avec de bonnes dispositions à l'égard des autres. Et ça commence dans le cœur. La bienveillance va plus loin qu'uniquement le fait d'être gentil ou de faire du bien. La bienveillance, c'est quand on donne humblement avec amour et miséricorde, avec une attitude, une disposition d'esprit, un état d'esprit, d'amour à l'égard de son prochain. Quand on donne, quand la personne à qui on donne ne peut pas donner en retour, c'est ce que Dieu fait. Quand nous donnons à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est ce que Dieu fait avec les hommes. Quand nous donnons et que la personne ne va pas forcément nous remercier, mais nous donnons parce que nous voulons donner, parce que nous sommes bienveillants. C'est une façon d'être, une façon de penser qui vient du cœur, qui va automatiquement engendrer de bonnes actions, de bonnes choses, qui va automatiquement nous permettre d'agir et de réfléchir aux autres. C'est une forme de générosité. Pour mieux comprendre la bienveillance, j'ai voulu regardez brièvement son opposé, son antonyme, c'est-à-dire la malveillance. Et le dictionnaire de l'Académie française dit ceci, pour définir la malveillance, disposition de l'esprit. Nous voilà donc de nouveau avec cette expression, disposition de l'esprit. Cette fois-ci, c'est dans un sens opposé. Disposition de l'esprit, du caractère qui porte à juger en mauvaise part le comportement d'autrui, à manifester une volonté mauvaise, hostile. Et le dictionnaire Larousse dit ceci, qui est animé de mauvais sentiments. C'est animé, donc ça vient du cœur, disposition de l'esprit, qui est animé de mauvais sentiments à l'égard d'autrui. Si nous regardons les synonymes de malveillance, nous trouvons les mots suivants. Haineux, hostile, c'est la disposition de l'esprit, hostile, méchant, médisant, nous allons revenir sur ce mot plus tard dans le sermon, médisant, pervers, venimeux. Ce sont des mots forts qui parlent, entre autres, de la malveillance, qui sont des synonymes pour la malveillance. Et nous connaissons bien Marc chapitre 7 et le verset 21. Je ne m'y rapporte pas. Marc chapitre 7 et le verset 21. Car c'est dedans, comme la bienveillance vient de dedans, de l'intérieur de nous, du cœur, la malveillance vient aussi du cœur, de dedans. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Et nous connaissons aussi le verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et comme la bienveillance, la disposition d'esprit, produit des actes de bienveillance, la malveillance produit aussi des actes de malveillance. Et Dieu nous demande donc d'exercer l'opposé de la malveillance, de pratiquer la bienveillance. Parce que la bienveillance décrit un trait de caractère de Dieu, la disposition de la part de Dieu. Tite, chapitre 3, et le verset 4. Tite, chapitre 3, et le verset 4. Cette fois-ci, je lis dans la version Shoraki. Mais quand la bienveillance et la bonté d'Elohim, notre Sauveur, sont apparus, la version seconde traduit un autre passage où ce même mot est employé par bienveillance. Ça se trouve, je ne m'y rapporte pas, ça se trouve dans Actes chapitre 28 et le verset 2, si vous voulez vérifier à la maison, où il est question des barbares qui nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Et ensuite, je reviens donc à Tite, Tite chapitre 3 et le verset 4, pour terminer le verset, et j'ai voulu terminer le verset avec la version seconde. Et son amour pour les hommes a été manifesté. Et son amour pour les hommes. Le mot, c'est philanthropia, qui veut dire amour pour les hommes ou amour pour le genre humain. Dieu est bienveillant. Nous trouvons aussi dans Romains chapitre 2 et le verset 4, un mot traduit par bonté, qui est à la racine de ce mot que nous venons de voir, bienveillance. Donc, à la racine, Romains chapitre 2 et le verset 4, méprises-tu les richesses de sa bonté ou bienveillance, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, bonté donc à la racine de bienveillance, le mot bienveillance, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Parce que Dieu est tellement bienveillant qu'il nous aide à aller contre notre propre nature humaine. De se voir tel que nous sommes vraiment en réalité et de pouvoir se repentir. La bienveillance de Dieu peut aussi influencer, peut aussi inspirer les êtres humains, les hommes de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Samuel chapitre 9 et le verset 1. 2 Samuel chapitre 9 et le verset 1. Je voulais vous lire ce verset dans la version Rabina. David se dit, Existe-t-il encore un survivant de la maison de Saul? Je voudrais le traiter avec bienveillance. C'est le fameux mot chesed dont nous avons parlé tout à l'heure. Je voudrais le traiter avec bienveillance en faveur de Jonathan. Verset 3, toujours le rabbinat. Le roi reprit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saul à qui je puisse témoigner une bienveillance digne de Dieu? J'arrête là. David, qui était un homme de Dieu, qui était inspiré par Dieu, a fait donc le rapprochement entre la bienveillance et Dieu. Il était inspiré de faire quelque chose qui était de Dieu, qui était digne de Dieu, parce qu'il avait des dispositions bienveillantes, parce que David désirait faire du bien. Si vous regardez le contexte, vous verrez qu'il n'était pas obligé de faire du bien. Et dans 2 Samuel chapitre 10 et le verset 2, nous voyons de nouveau ce mot « chesed ». Le chapitre suivant, 2 Samuel chapitre 10 et le verset 2, David dit, je montrerai de la bienveillance à un fils de Nachat, comme son père en a montré à mon égard. Il était maintenant décédé, mais David voulait lui faire du bien. C'est le même mot, traduit ici par bienveillance. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler, parce que son père était mort, au sujet de son père. Et cette bienveillance était dans le cœur de David. Il voulait montrer une bienveillance digne de Dieu. Et parce que c'était dans le cœur, c'était suivi par des actes. Il s'est préoccupé de Hanan, tout comme il s'est préoccupé par la descendance de Jonathan. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Nous avons déjà vu tout à l'heure que médisance, c'est aussi un synonyme de malveillance, et toute médisance désirée comme des enfants nouveau-nés, verset 2. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. C'est très important de croître. Monsieur Franks a dit dans sa lettre du 8 janvier de cette année, et je cite, « L'un des éléments clés pour maintenir la paix et la productivité est le concept de service, qui est l'exact opposé de l'égoïsme. Chaque fois que nous nous concentrons sur le service des autres, plutôt que sur nous-mêmes, de bons fruits sont produits. » Je reviens à la fin du verset 2. « Afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et le mot « bon » dans le Chouraki est traduit par bienfaisant. Il s'agit de si nous avons connu la bienfaisance de Dieu dans nos vies personnelles. De la Bible, Jérusalem dit, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est excellent. Et vous avez peut-être une référence dans votre Bible à propos du mot bon avec une croix. Et une croix indique une citation de l'Ancien Testament, mais qui est présente dans le Nouveau Testament. Il fait référence à Psaume 34, verset 9, que je vous laisse regarder à la maison. Jusqu'à un certain point, comment nous traitons les animaux peuvent aussi indiquer les dispositions de notre cœur. Et si nous avons la bienveillance à l'égard des animaux, il est fort possible que nous ayons aussi la bienveillance à l'égard des êtres humains. J'ai voulu vous citer, je ne m'y rapporte pas, Proverbes chapitre 12 et le verset 10. Proverbes chapitre 12 et le verset 10, « Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. » Tandis qu'il y a la bienveillance, de la bienveillance dans les entrailles des justes. J'ai un article ici qui illustre jusqu'à certain point ce que nous venons de lire. Il parle de la cruauté envers les animaux. La référence est de PETA France. Chaque jour, un nombre infini de chats, chiens et autres animaux souffrent et meurent dans les mains des personnes supposées prendre soin d'eux et les protéger. Mais évidemment, il n'y a pas de bienveillance. Les violences physiques ou psychologiques, la négligence et la maltraitance sont une réalité quotidienne pour de nombreux animaux. Le seul espoir est qu'une personne, je cite l'article toujours, le seul espoir est qu'une personne bienveillante agisse avant qu'il ne soit trop tard. Une personne bienveillante agisse avant qu'il ne soit trop tard. L'article parle des types de cruauté les plus répandus. Et il parle des les amasseurs d'animaux ne sont pas des personnes qui possèdent un peu trop d'animaux. Ce sont des individus dont la maladie mentale ou la compulsion peuvent entraîner des comportements criminels avec des conséquences terribles pour les animaux, leur propre famille et le voisinage. Les amasseurs existent pratiquement partout. Et on les trouve dans toutes les catégories économiques et sociales, sexe et niveau d'éducation. Une tendance de plus en plus courante et inquiétante chez les amasseurs est de se faire passer pour un refuge ou un centre d'accueil d'urgence. Et comme dit l'article, le seul espoir pour ce genre d'animaux maltraités est qu'une personne bienveillante agisse avant qu'il ne soit trop tard. La bienveillance touche beaucoup de domaines et affecte notre comportement avec notre prochain. Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, nous qui sommes dans une catégorie à part, choisis par Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit, revêtez-vous, c'est-à-dire de prendre ces traits de caractère, que ça devienne une partie intégrante de notre être. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il parle des entrailles, ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Ce qui est dans notre cœur, c'est notre attitude de base, si je puis dire, notre disposition d'esprit. La version Semeur parle de « revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité ». Éphésiens chapitre 4, et le verset 32. Éphésiens chapitre 4, et le verset 32, mais ça commence en réalité avec le verset 31. Donc, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parce que ces choses vont nous empêcher, c'est la méchanceté, va nous empêcher d'être bon, va nous empêcher d'être bienveillant. Et ensuite le verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. lui donne aussi la définition de bienveillant pour ce mot traduit ici par bon. Et nous voyons ici dans le verset 32 ce qui accompagne la vraie bonté, la vraie bienveillance. Nous voyons la bonté et la bienveillance du Christ. Pierre l'a résumé dans Actes chapitre 10 et le verset 38. Actes 10, 38, je ne m'y rapporte pas. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La bienveillance du Christ. Le Christ était ce que la Bible appelle le bon berger. Mais regardons, si vous voulez bien, Luc chapitre 22, Luc chapitre 22 et le verset 49. Nous lisons ceci, c'était juste avant la crucifixion, la flagellation, la crucifixion du Christ. On est venu le chercher dans le jardin de Gethsémané. Verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous l'épée, et l'un d'eux, le serviteur du souverain sacrificateur. C'était Pierre, avec son impétuosité habituelle, et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Verset 51. Mais Jésus, prenant la parole, lui dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Le nom de ce serviteur était Malchus. Et c'est important pour nous de mettre ceci dans son contexte où le Christ ne savait pas où il allait passer, qu'il avait demandé à son Père que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui parce que le Christ connaissait pas où il allait passer. Avec la brutalité, avec la douleur, avec un mort atroce. Mais même dans cette situation, ayant prié son Père, il avait gardé toute sa bienveillance. Il ne voulait du mal à personne, y compris à ses ennemis. Jésus-Christ a montré sa bienveillance dans cette situation très, très pénible. Nous pouvons bien sûr nous poser des questions. C'est difficile parfois de se poser ce genre de questions, de comparer notre comportement avec le comportement du Christ. Mais nous pouvons nous poser la question suivante. Mon comportement, est-ce que mon comportement reproduit la bienveillance de Dieu à mon égard? C'est quelque chose que nous pouvons méditer. Ou est-ce que j'attends quelque chose en retour? Quand je donne, est-ce que je montre la miséricorde, l'amour, la compassion? Divers fruits de l'esprit se complètent. Et la bienveillance implique l'amour, entre autres, l'amour, la patience, la tempérance. Dieu est parfait dans chaque domaine, avec chaque fruit de l'esprit. Dieu veut que nous fassions de la place dans nos vies pour la bienveillance. Et en réfléchissant et en méditant, ça va nous aider si nous sommes disposés, vraiment disposés, à introduire la bienveillance ou plus de bienveillance dans notre vie. Sur le plan pratique, comment démontrer davantage de bonté? Comment démontrer davantage de bienveillance? Comme j'ai dit, nous pouvons méditer sur nos actes, sur nos paroles, nos actes, nos pensées. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à avoir plus de bienveillance. Le manque d'humilité nous empêche aussi d'être bienveillants. Nous pouvons chercher des exemples dans la Bible et nous pouvons méditer ces exemples que nous avons trouvés. C'est un peu ce que j'ai fait au cours de ce sermon. À nous donc de développer les qualités divines. Les traits de caractère, ce trait de caractère a toujours existé. Avec les hommes et les femmes qui ont désiré être comme Dieu. La bienveillance existera pour l'éternité. C'est à nous de voir comment nous pouvons être davantage bienveillants. C'est important pour nous, en tant que chrétiens, de se voir par rapport à l'éternité, d'avoir une vision de l'avenir et par voie des conséquences de développer les fruits de l'esprit, tous les fruits de l'esprit. Ça exige de notre part un effort, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons avancer et nous pouvons tendre vers notre propre perfectionnement en développant la bienveillance à l'égard des autres. Être bienveillant, c'est agir comme Dieu agit à notre égard.